Vous écoutez France Culture.
Et le journal vous est présenté par Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. A-t-on eu raison d'autoriser des traitements expérimentaux contre la fièvre Ebola ? Les scientifiques n'ont pas encore la réponse, mais hier on a appris que les deux Américains atteints par la fièvre hémorragique et qui ont reçu le sérum en test sont guéris, ils sont sortis de l'hôpital. Dans le même temps, l'Afrique s'inquiète face à une épidémie dont on ne sait pas encore si elle a atteint un palier. La guerre contre l'État islamique, le groupe djihadiste en Irak et en Syrie a été déclaré menace terroriste numéro 1 hier par les États-Unis. Nous verrons également comment les Occidentaux pourraient se rapprocher de l'Iran et de Bachar al-Assad en Syrie pour combattre le mouvement radical. La guerre aussi en Ukraine, le convoi humanitaire de la Russie pourrait finalement passer la frontière aujourd'hui. L'inspection des 300 camions a débuté. Le président ukrainien dit vouloir parler de paix avec Vladimir Poutine. Et puis François Hollande poursuit sa tournée dans l'océan Indien après des mesures en faveur de l'emploi à La Réunion. Il devrait évoquer aujourd'hui la question de l'immigration à Mayotte. C'est une lueur d'espoir face à une épidémie inquiétante. Les deux Américains atteints du virus Ebola le mois dernier sont guéris. Ils sont sortis de l'hôpital d'Atlanta où ils avaient été rapatriés. Ces deux malades infectés au Liberia sont les premiers à avoir été traités avec un sérum expérimental, le ZMapp. Les précisions de Charlotte Alix.
Dans le centre hospitalier d'Atlanta où il était soigné depuis son rapatriement, le docteur Brentley s'est présenté devant les caméras souriant, serrant des mains et embrassant le personnel de l'hôpital, manière de signifier « je ne suis plus contagieux ».
C'est un jour miraculeux. Je suis absolument ravi d'être en vie, d'être en bonne santé et d'avoir retrouvé ma famille.
Après une série d'analyses, les autorités sanitaires ont jugé que les deux patients américains étaient définitivement guéris et ne présentaient aucun danger pour la santé publique. Impossible alors qu'il est de savoir si le ZMapp, le médicament expérimental qui leur a été administré, est la cause de leur guérison. Le docteur Bruce Ribner, directeur du service des maladies infectieuses de l'hôpital.
Ils sont les tout premiers individus à recevoir ce traitement. Ça n'avait jamais été fait. Franchement, nous ne savons pas si cela les a aidés, si cela n'a fait aucune différence ou encore si ça a pu même retarder leur guérison.
Une centaine de chercheurs et de spécialistes des questions éthiques est attendue à Genève au siège de l'Organisation mondiale de la santé début septembre. Ils devraient discuter des thérapies expérimentales comme le ZMapp et des vaccins les plus prometteurs comme moyen de contrôler l'épidémie qui a fait déjà plus de 1300 morts.
Charlotte Alix à New York. La plus grande prudence donc autour de la guérison des deux malades américains. D'autant que l'épidémie est loin d'être endiguée. L'ONU semble même craindre le pire. Le coordinateur des Nations Unies contre le virus Ebola s'est dit prêt à affronter une flambée si nécessaire. Les nouveaux cas détectés ces derniers jours se comptent en dizaines au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone. Les trois pays touchés pour l'instant. L'inquiétude gagne les voisins africains. Ainsi, le Sénégal annonce la fermeture des frontières terrestres avec la Guinée. L'Afrique du Sud n'autorise plus l'entrée sur son territoire de voyageurs en provenance des trois États touchés. Et hier, la République démocratique du Congo a fait savoir que 13 personnes étaient mortes dans le nord-ouest du pays d'une fièvre hémorragique indéterminée. C'est un autre fléau, un cancer, a dit le président Barack Obama, difficile à éradiquer. L'État islamique est devenu l'ennemi public numéro un de la Maison-Blanche. Hier, pour la première fois, le Pentagone a reconnu que le groupe radical qui sévit en Irak et en Syrie, allait bien au-delà de toute autre menace terroriste connue jusqu'à présent. Depuis le meurtre du journaliste James Foley, revendiqué par le mouvement djihadiste, les États-Unis ont durci le ton. La correspondance de Frédéric Carbone.
Il n'y a pas si longtemps, pour les dirigeants américains, l'État islamique était un groupe fanatique régional, une menace locale, cruelle mais limitée. Désormais, c'est Al-Qaïda, en même pire, tel que le décrit le secrétaire à la Défense. Des moyens financiers considérables, un savoir-faire militaire, une idéologie implacable, bref, un ennemi redoutable qui constitue une menace imminente pour les États-Unis. À l'évidence, il s'agit de préparer l'opinion à un engagement militaire de longue durée et plus intense. Le chef d'état-major des armées explique ainsi que les frappes en Irak depuis deux semaines ont permis de stopper l'avancée de l'État islamique. Mais pour le général Dempsey, il faudra sans doute aller plus loin. Est-ce qu'ils peuvent être vaincus sans qu'on s'en prenne à la partie de leur organisation qui est installée en Syrie? La réponse est non. Le problème devrait être envisagé des deux côtés d'une frontière qui n'existe pas. Les États-Unis envisagent donc à nouveau des frappes aériennes en Syrie, cette fois contre un ennemi du président Assad. Il y a aussi l'hypothèse de commandos en Irak et en Syrie. Toutes les options sont étudiées, sauf l'envoi massif de troupes au sol. Et à la question, les États-Unis ne sont-ils pas en fait déjà en guerre contre l'État islamique? Le général Dempsey sourit et répond « Ce n'est pas aux militaires de déclarer la guerre, c'est aux politiques ». À ses côtés, le ministre Hegel ne dit pas un mot.
Frédéric Carbone, le correspondant de France Culture aux États-Unis. Alors on l'entend, toutes les options sont envisagées, même celle de faire appel à d'anciens régimes ONI. Le président syrien Bachar al-Assad bombarde en ce moment des positions de l'État islamique en Syrie, à Raqqa, et pourrait finalement être très utile aux Occidentaux, tout comme le régime iranien. Le point avec Claude Guibal.
La pilule a dû être dure à passer, mais voilà, c'est bien la France, par la voix de Laurent Fabius, qui a donc appelé à la mise en place d'une action coordonnée contre l'État islamique, une coordination qui inclut l'Iran. Cet Iran dont personne, et surtout pas Paris, ne voulait entendre parler il y a encore 2 ans, lors des multiples réunions censées sortir la Syrie de la crise. Cet Iran dont la présence a été refusée lors des conférences de Genève, où se jouait l'avenir de la Syrie, au moment même où les djihadistes continuaient, eux, leur essor silencieux sur le sol syrien avant d'envahir le nord de l'Irak. Entre-temps, les négociations sur le nucléaire ont remis Téhéran au cœur de l'échiquier diplomatique et l'ancien pestiféré sait désormais que l'heure est venue de jouer son va-tout en endossant le rôle du stabilisateur de la région. Mais il y aura une contrepartie, l'Iran est très clair. Téhéran fera quelque chose contre l'État islamique en échange d'avancées dans les négociations nucléaires avec les grandes puissances. C'est ce qu'a réaffirmé le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. Et ce quelque chose, cela pourrait être déjà la levée de toutes les sanctions économiques décrétées par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Avec l'Iran, c'est le monde chiite que l'Occident regarde désormais, après avoir systématiquement regardé le Proche-Orient au travers du prisme sunnite depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà de quoi, par extension, conforter le régime alaouite de Bachar al-Assad, allié des chiites. Bachar al-Assad qui s'est engouffré dans la brèche en ciblant désormais les positions de l'État islamique qui avait été jusqu'à présent épargné par l'armée syrienne.
Ce sont d'autres islamistes qui font régner la terreur. Cette fois, au Nigeria, le groupe Boko Haram refait parler de lui. Il a conquis la ville de Gwoza au début du mois, près de la frontière avec le Cameroun. Et aujourd'hui, ce sont près de 11 500 habitants de cette localité qui ont dû fuir. Ils vivent désormais dans des camps de déplacés. Boko Haram semble avoir changé de tactique ces dernières semaines. Fini les opérations de guérilla et les raids contre les bâtiments publics. Les rebelles islamistes s'emparent à présent de villes et de villages et forcent les populations à fuir. En Ukraine, le conflit continue de faire rage dans l'est du pays. À Lugansk, l'eau, l'électricité et les communications sont coupées. Le pouvoir ukrainien affirme avoir saisi 2 blindés russes tout près de cette ville, ce qui pourrait prouver pour la première fois l'implication directe des forces régulières russes dans le conflit. Moscou continue de démentir. Par ailleurs, les gardes aux frontières et les douaniers ont finalement commencé hier l'inspection du convoi humanitaire, ces camions russes bloqués depuis une semaine. Cette inspection a été posée comme condition sine qua non avant leur entrée sur le territoire ukrainien. Kiev craint que les 300 camions ne servent à une intervention russe. Le point avec Étienne Bouche de Radio France Internationale.
Il est resté près d'une semaine immobile à une 30 kilomètres de la frontière ukrainienne. Le convoi humanitaire est désormais en phase d'inspection. C'est ce qu'a confirmé sur place une représentante russe de la Croix-Rouge. Cette inspection a lieu dans la zone intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine. Elle est effectuée par des douaniers et gardes frontières ukrainiens en présence d'observateurs de la Croix-Rouge. Jeudi, le convoi était enfin en mouvement. Un nombre important de camions a quitté le lieu de stationnement initial pour rejoindre le poste frontière de Donetsk. Une 50aine de véhicules a notamment rejoint la zone de transit. Difficile d'en savoir plus sur l'intervention des douaniers, puisqu'elle s'opère loin des regards. La suite de la procédure n'est pas encore connue. Avant d'envisager le passage du convoi sur le sol ukrainien, des garanties de sécurité de l'acheminement doivent en théorie être clarifiées. Mercredi, une équipe de la Croix-Rouge s'est rendue à Lugansk pour évaluer les conditions de distribution des marchandises.
Et le président ukrainien Petro Poroshenko a promis hier de parler de paix avec son homologue russe Vladimir Poutine. Il veut le convaincre de retirer les combattants rebelles de l'est de l'Ukraine. Les deux chefs d'État vont se retrouver mardi prochain au Bélarus dans le cadre du sommet régional de Minsk. Il n'a pas été précisé pour l'instant si un tête-à-tête était prévu. Seront également présents à Minsk la semaine prochaine des dirigeants de l'Union européenne. Aux États-Unis, le calme revient peu à peu à Ferguson, cette ville secouée par des tensions raciales depuis la mort d'un jeune noir tué par un policier. Signe de cette amélioration, la garde nationale, appelée en renfort, s'est retirée de la ville. Un jury examine désormais à huis clos le dossier et décidera de poursuivre ou non le policier. Une amende record aux États-Unis. Bank of America a accepté de payer hier près de 17 milliards de dollars pour clore les poursuites liées aux subprimes. Ces crédits immobiliers à des emprunteurs insolvables sont à l'origine de la crise financière. L'accord a été passé entre la banque, le département de la justice, des États américains et plusieurs régulateurs. Un constat pessimiste et largement partagé. Voilà ce qui est ressorti de la réunion de météorologues et de climatologues qui s'est terminée hier à Montréal, au Canada. Les phénomènes extrêmes devraient se multiplier dans les prochaines décennies et cela à cause du réchauffement climatique lié à l'activité humaine. 10 ans après l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, la question à Montréal n'était plus d'établir si un réchauffement de la planète aurait lieu, mais plutôt quelles en seront les conséquences. Nous avons recueilli l'analyse de Serge Planton, chercheur à Météo France.
On ne peut pas dire de manière indifférenciée que tous les événements extrêmes vont devenir plus intenses, plus fréquents. On peut dire que très probablement ce sera le cas pour les extrêmes de température, les températures plus élevées, les pics de chaleur, les jours chauds qui augmenteraient donc en fréquence et les vagues de chaleur aussi en durée et en intensité. On peut s'attendre à des étés plus chauds, mais aussi à des hivers plus chauds. Le nombre de cyclones pourrait augmenter dans certaines régions et donc diminuer dans d'autres. Pour ce qui est de l'intensité, on pense que probablement cette intensité va augmenter en termes de vent ou de pluie, de précipitations associées aux cyclones. Mais là encore, il est difficile de particulariser à une région bien déterminée. S'il est vrai effectivement de dire que lorsque la température se réchauffe, la quantité en vapeur d'eau dans l'atmosphère augmente et on sait même effectivement définir à peu près la proportion. 7% d'augmentation de vapeur d'eau par degré de réchauffement supplémentaire. On ne peut pas en déduire automatiquement que, par exemple, on aura la même augmentation en pourcentage de la quantité de précipitation. Le réchauffement de la température, à la fois en surface, mais aussi dans les couches profondes océaniques, à cela se combine également l'apport d'eau qui provient de la fonte des glaciers. On sait aussi qu'il y a une contribution qui est loin d'être négligeable liée à la fonte de la calotte polaire du Groenland. Cette augmentation du niveau des mers a un effet retard par rapport, on peut dire, au réchauffement, puisque même si la température se stabilisait à la surface, le niveau des mers continuerait à augmenter encore pendant plusieurs siècles.
Le climatologue Serge Planton, il répondait à Anne Lorchouin. François Hollande poursuit sa tournée dans l'océan Indien. Il quitte aujourd'hui la Réunion, direction Mayotte, 101e et dernier département français en date. Mayotte a acquis ce statut de DOM il y a 3 ans, mais le territoire reste très proche de l'archipel des Comores. La France pourrait d'ailleurs développer une coopération commune avec les Comores pour lutter contre l'immigration incessante au départ d'Anjouan, l'île la plus proche de Mayotte. C'est un reportage de Béatrice Duguay.
Le passage en kwassa-kwassa, ces barques de pêcheurs rudimentaires, coûte entre 200 et 1500 euros. Il y a parfois jusqu'à 40 personnes sur une embarcation. Une folie, d'autant que les conditions météo de la traversée virent souvent au cauchemar. Ilma a vécu ça.
Il y avait l'orage, après la barque s'est tournée, mais il n'y a personne qui est mort. J'ai eu tellement peur que je croyais que je vais mourir. On était au milieu de nulle part, sur la mer. On ne voit rien, on a peu nager pour aller sur la barque. C'est là que la gendarmerie aussi nous a rattrapés. Après le lendemain, ils ont envoyé un jeune.
Retour à la case départ, donc, comme pour près de 16 000 migrants cette année. Migrants des Comores, mais aussi d'Afrique des Grands Lacs. Comme à Lampedusa en Italie, il y a des drames humains dans l'idyllique lagon mahorais. Pas des milliers pour Ibrahim Aboubakar, l'un des deux députés mahorais, mais il en renvoie la responsabilité aux dirigeants comoriens.
Tout le monde sait où ces bateaux partent là-bas, avec des enfants, des femmes enceintes, pour venir ici. Eh bien, le crime, c'est d'abord ces autorités qui laissent partir ces embarcations là-bas. Alors oui, il y a dans ces conditions-là des morts. Il est plus que temps que par une coopération sérieuse entre l'État français et l'État comorien, qu'effectivement on puisse mettre de l'ordre dans cela, parce que c'est possible.
Ces derniers mois, les autorités comoriennes ont intercepté des bateaux au départ d'Anjouan, un geste qui ouvre une voie de négociation au chef de l'État français.
L'immigration aujourd'hui. Hier, c'était l'économie et l'emploi qui étaient au cœur du déplacement de François Hollande sur l'île de la Réunion. Il a proposé des mesures contre le chômage qui touche près de 30% de la population active. Ainsi, le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, sera porté à 9% contre 6% en métropole. Coup de pouce également aux emplois d'avenir et à la filière de la canne à sucre. Le gouvernement, lui, débloque 215 000 euros pour 4 associations françaises, la Croix-Rouge, les banques alimentaires, le Secours populaire et les Restos du cœur, une aide pour leur permettre de poursuivre leur action estivale, la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis. On termine par le temps de ce vendredi. La pluie et les orages sont de retour au-dessus des Pyrénées et de la Bretagne, au Nord-Pas-de-Calais. Température toujours un peu fraîche, avec cet après-midi 18 degrés à Douai, 21 à Paris, 23 degrés à Bordeaux, 24 à Perpignan et 28 degrés en Corse.